part ce matin. Il n'y a pas d'assistant. Je ne dis pas je vais assister au culte, mais je dis je vais offrir mon sacrifice de louange. Est-ce que vous l'avez fait ce matin? Amen. Voilà. Donc c'est ainsi que Dieu nous veut, des serviteurs, des sacrificateurs. C'est toujours actif, c'est toujours donc en communion avec Dieu. Alors est-ce que nous savons qu'il faut adorer? Est-ce que nous savons comment adorer à la manière que Dieu le demande? Est-ce que nous savons comment Dieu attend notre adoration? Est-ce que nous pouvons apprendre à louer le Seigneur de mieux en mieux? De plus en plus selon sa volonté? Oui. Est-ce qu'on connaît la différence entre la louange et l'adoration? Ou est-ce que c'est la même chose? Entre la prière, la louange, l'adoration, l'intercession, c'est un gros mélange. Et puis, pendant le culte, on peut prier, pendant le culte, on peut adorer, pendant le culte, on peut louer, on peut intercéder. Alors, on mélange tout? Ou est-ce qu'on arrive à distinguer qu'est-ce que la louange, qu'est-ce que l'adoration, qu'est-ce que l'intercession? Ce n'est pas la même chose. L'adoration est-elle réservée juste au moment du culte ou est-ce qu'on peut avoir des temps d'adoration chaque jour à la maison? Chaque jour, je peux aussi. Nous ne sommes pas des religieux qui viennent faire un devoir religieux ce matin, mais nous sommes des adorateurs. Jésus a dit, ils adoreront le Père en tout lieu. Ce sera ni à Jérusalem ni sur le mont Garizim, mais c'est des adorateurs que Dieu demande. Donc, ils pourront adorer Dieu nuit et jour s'ils le veulent, à tout moment, sans jour particulier. Bien sûr, le jour du dimanche est particulier dans le sens où c'est le rassemblement des croyants. Et donc là, c'est spécial. Mais l'adoration n'est pas réservée au dimanche. Elle est possible tous les jours de la semaine, jour et nuit, on peut adorer le Seigneur. Alors la parole de Dieu nous enseigne comment nous devons adorer. Alors, on va en introduction définir un petit peu ce qu'est la louange et ce qu'est l'adoration. Qu'est-ce que la louange? Alors une définition simple, la louange, c'est rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est. Rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que nous nous concentrons sur sa personne et nous lui rendons gloire pour ses attributs. Est-ce que vous connaissez les attributs de Dieu? Par exemple, nous savons que Dieu est saint, que Dieu est amour, que Dieu est bon, Dieu est fidèle. C'est ça, c'est les attributs de Dieu. Et il y en a des attributs dans la parole. Donc, louer Dieu parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est glorieux. Et puis là, il y en a des tonnes. On peut donc louer Dieu pour sa personne. La louange, c'est déclarer notre admiration pour le Seigneur, faire l'éloge de sa personne. Donc, si on considère qu'est-ce que la louange est toujours centrée sur Dieu et non pas sur mes besoins. Et quelquefois, certains confondent la prière et la louange. Parce qu'ils viennent au culte et ils prient. Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, bénis mon épouse, mon époux, mes enfants, mon travail. Donne-moi un bon travail, donne-moi une bonne voiture, donne-moi une bonne maison, etc. Ça, c'est la prière. Ou guéris telle personne, interviens ici. C'est la prière. Donc, je demande à Dieu pour des besoins, mes besoins ou les besoins de ma famille ou les besoins d'un frère, d'une sœur de l'église ou les besoins d'un collègue de travail. Mais ça, c'est la prière. Or, le culte, nous avons dit, c'est centré sur la louange et l'adoration. Donc, il nous faut déjà distinguer les deux. Alors, la louange, c'est rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est. Qu'est-ce que l'adoration maintenant? L'adoration, si on peut le définir d'une manière aussi simple, d'abord, l'adoration en grec, c'est proskuneo, qui veut dire se prosterner. Donc, ça nous parle d'une attitude de révérence à l'égard d'un être infini. Nous nous prosternons que devant Dieu. Donc, se prosterner et adorer, c'est le même mot. Alors, peut-être on ne se met pas littéralement à genoux, mais on peut le faire chez soi, mais dans notre cœur, en tout cas, quand on adore, on doit fléchir le genou et considérer la puissance et la grandeur de Dieu. Alors l'adoration, ça consiste à exprimer notre amour pour Dieu, si on peut le définir d'une manière assez simple. La louange, c'est rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est, ses attributs. Mais l'adoration, on va dire que c'est plus une déclaration d'amour. un petit peu comme le fiancé va déclarer sa flamme à sa fiancée. Ça vous est arrivé quand vous étiez fiancé? Est-ce que ça vous arrive encore, messieurs, de déclarer votre flamme à votre épouse, hein? Ça les touche beaucoup, hein, les épouses. Moi, quand je veux faire plaisir à ma femme, je lui écris une lettre, un poème. Alors là, elle craque. Une lettre d'amour. Hein, ce n'est pas réservé juste pour les temps des fiançailles. Hein. On peut déclarer, et il faut le faire, notre amour, bien sûr à Dieu, puisque c'est le sujet. Mais c'est le même principe, vous voyez, quand on vient pour adorer le Seigneur, on vient déclarer notre amour à Dieu. Et quand Dieu entend notre lettre d'amour, eh bien, il est touché. On l'a dit là, il y a 15 jours, Dieu a des sentiments, il se réjouit. Il est heureux, non pas qu'il ait vraiment besoin de recevoir notre louange et notre adoration, parce que Dieu se suffit à lui-même, mais ça lui fait plaisir. Un petit peu comme un père qui voit son enfant préparer un petit cadeau. Et puis, alors c'est à son niveau, c'est un petit cadeau, c'est du bricolage. Des fois, si c'est un dessin, ça déborde des traits, c'est pas grave. Mais c'est le petit cadeau qu'il a préparé pour faire une surprise à son papa ou à sa maman. Et puis le papa est tout content. Alors la semaine dernière, le frère Stéphane Kerry me montrait sur son ordinateur un petit clip. Je ne sais pas si c'est une publicité ou quoi. Et justement, c'était une petite fille qui voulait faire plaisir à sa maman. Alors elle avait fait la vaisselle. Elle commençait à laver toute la vaisselle et tout. Puis la maman était à la porte de la cuisine, elle regardait sa fille. Avec un cœur, elle s'est dit, oh là là, ma fille, elle est formidable. Une petite fille de peut-être 6 ans qui faisait la vaisselle pour sa maman. Et puis on voit qu'elle y mettait tout son cœur, cette petite fille. Et puis on voit ensuite l'image, elle sort de l'eau de la vaisselle, l'ordinateur portable de la maman qu'elle était en train de nettoyer. Et puis alors là, les yeux de la maman, il lançait des flèches, des flammes de feu. C'était pour lui faire plaisir. Hein? On est comme des enfants, on veut faire plaisir au Seigneur. Parfois, on ne s'y prend pas de la bonne manière, mais l'intention, c'est de faire plaisir au Seigneur. Voilà comment nous devons adorer. Voilà, ça va pour les définitions. On a défini la louange, rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est, l'adoration, déclarer notre amour pour le Seigneur. Alors, dans ce sujet de la louange et l'adoration, j'ai eu à cœur ce matin particulièrement de parler de la louange et l'adoration céleste. Car on va se rendre compte que, on verra l'adoration terrestre ultérieurement, mais la louange et l'adoration ne commencent pas sur terre, elle existe déjà dans le ciel et elle existait même avant la création. Job, chapitre 38, verset 4. On fait une première lecture dans la parole. Job, chapitre 38. Et au verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Alors, les fils de Dieu dont il est question au verset 7, ça désigne les anges. Ils sont souvent appelés les fils de Dieu dans l'Ancien Testament, et ça correspond aux anges, aux êtres célestes que Dieu a créés pour sa gloire. Quand est-ce qu'a commencé l'adoration? Si on se réfère à ce texte, l'adoration commençait déjà avant la création du monde, puisque les anges poussaient des cris de joie lors de la création. Donc Dieu a commencé par créer les êtres célestes, les anges, et déjà, quand il y a eu cette création-là, il y avait de l'adoration et de la louange dans le ciel. Ensuite, Dieu a créé l'univers, le ciel, la terre, la création. On se rend compte que la création, vous savez, c'est estimé à 15 milliards d'années. Dans un gros Big Bang, il y a eu une explosion primordiale et tout est apparu. C'est la science qui dit ça comme ça. En tout cas, la Bible dit qu'il y avait de la louange à ce moment-là. Alors ça devait être un spectacle extraordinaire entre la création à partir de rien et puis la louange des anges qui poussaient des cris de joie. Si on pouvait avoir un film ou une vidéo de ça, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Et c'était un spectacle unique. Je crois que c'est plus grandiose que tous les plus beaux feux d'artifice. Peut-être certains ont vu le feu d'artifice le 14 juillet ici, avec il y avait de la musique, il y avait des beaux de toutes les couleurs. Mais la création, ça devait être encore plus grandiose. Hein. C'était spectaculaire. Et avec ces chants de louanges en arrière-fond. Alors, j'attire votre attention ici sur les anges. Les fils de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il est dit qu'ils poussaient des cris de joie. Est-ce que vous imaginez un ange crier? Ça vous paraît raisonnable? Ou est-ce que les anges, ils parlent doucement au ciel, ils chuchotent pour ne pas déranger Dieu qui sommeille profondément? Comment vous voyez la chose là-haut? Apparemment, les anges, ils poussent des cris de joie. On les imagine tout blancs, ténus, qui ne parlent pas fort. Un petit peu comme dans les églises. Il ne faut pas faire de bruit, faut pas déranger. Ça pourrait réveiller le voisin, je ne sais pas. Non, dans le ciel, il y a des cris de joie. Un petit peu comme on a fait ces chants, taper des mains, louer le Seigneur, et éclater en chants de victoire. Voilà comment ça se passe. Apparemment, Dieu n'est pas dérangé par les cris de joie. Est-ce que nous, on est dérangé par les cris de joie? Je me suis posé la question. Est-ce que ça vous dérange quand quelqu'un pousse un cri de joie? Hein? Il y en a peut-être que ça dérange. Hein? Eh oui. Il y en a peut-être que ça dérange parce que ça les gêne. Quelqu'un qui va exprimer sa joie comme ça devant le Seigneur, il y en a que ça gêne parce qu'ils ne sont pas habitués puis ils considèrent que l'église, ce n'est pas un lieu tellement pour exprimer sa joie. Et c'est plutôt austère. Il faut mieux avoir une mine sévère, une mine triste. Et surtout, ne pas pousser un cri de joie, parce que là, tout le monde va vous regarder. Et si c'était un ange qui était au milieu de nous ce matin, et qui poussait un cri de joie, parce qu'eux, ils le font, eh bien, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on serait gêné? Hein? Ça serait un ange quand même. Bon, alors on l'accepterait. Mais voyez, ce qui nous gêne, nous, ne gêne pas forcément Dieu. Et peut-être quelqu'un est gêné quand il y a de l'exubérance, quand il y a des cris de joie, quand il y a des exclamations, des cris de victoire ou taper des mains. Peut-être ça gêne quelqu'un. Mais en réalité, on se rend compte que Dieu honore la joie qui vient du cœur et l'expression de cette joie est belle aux yeux de Dieu. Donc, alors je ne dis pas qu'il faut crier pour crier, vous comprenez, hein ? On n'est pas là pour faire du bruit. Allez, on n'est pas là pour crier, allez, on va s'époumoner, puis plus on va s'époumoner, plus il y aura la vie. Ce n'est pas ça. Mais Dieu aime l'expression joyeuse qui vient d'un cœur sincère, un cri de joie. Alors, on va lire un deuxième texte, ça c'est l'adoration. On a dit l'adoration a précédé la création. On est toujours dans l'adoration céleste. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Amen. Ésaïe, ici, a eu une vision extraordinaire du trône de Dieu et du Seigneur qui reçoit la louange et l'adoration des séraphins. D'abord, le trône est très élevé, dit la parole, ce qui montre que Dieu est au-dessus des rois et au-dessus des plus grands de ce monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de Dieu. Ça a été le piège de Satan, il a voulu se faire, ne serait-ce que l'égal de Dieu, c'était impossible. Il a été précipité, chassé du royaume de Dieu. La Bible dit que la robe de l'Éternel remplissait le temple, ce qui nous parle de la majesté de Dieu. Et quand on sera devant le trône, on sera incliné en révérence, en adoration, tellement ça sera grandiose. Et puis vous avez ces séraphins. Les séraphins, vous avez entendu parler de ces anges-là? C'est une catégorie d'anges qui n'apparaît qu'ici dans la parole de Dieu, qu'on estime, selon les commentateurs, qui est la catégorie la plus élevée des anges. Hein, les séraphins, c'est le plus haut degré de, si on fait une hiérarchie angélique. Donc vous avez les séraphins qui sont tout proches de Dieu, qui adorent. Et puis vous avez en dessous, vous avez les chérubins, puis vous avez les archanges, puis vous avez les anges. Et on remarque aussi que dans l'œuvre des ténèbres, il y a une sorte de hiérarchie aussi diabolique entre Satan, certains princes de ténèbres, donc certaines principautés, et puis des anges déchus, et puis jusqu'aux démons. Donc cette hiérarchie qui nous échappe, en tout cas, nous montre qu'ici, il y a des choses dans le ciel. Séraphin, ça veut dire ceux qui brûlent, les brûlants, les ardents. Donc ils sont enflammés pour Dieu, entièrement en adoration. On voit qu'ils sont très proches de Dieu et ils représentent la sainteté divine. On a remarqué qu'ils ont 6 ailes, 2 pour se cacher parce qu'ils ne veulent pas voir Dieu de face, tellement la sainteté de Dieu est éclatante. Ils ne voient pas directement Dieu. Dieu pour se cacher les pieds, c'est-à-dire ils se cachent eux-mêmes de Dieu parce que Dieu est parfait, Dieu est saint. Et puis 2 pour voler, 6 ailes ils ont cela. C'est donc les séraphins, et leur service consiste à adorer, vous avez remarqué, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre entière remplie de sa gloire. Donc leur service est constamment de louer, d'adorer le Seigneur. Vous avez remarqué un mot qui revient, qu'on a lu tout à l'heure, entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 3 ? Ils chuchotaient, c'est comme ça ? Ils chuchotaient du bout des lèvres pour ne pas déranger Dieu. Ils criaient. Oh, encore une fois, qu'est-ce qu'il doit y avoir comme cri là-haut, hein? Les anges y crient déjà, puis les séraphins aussi. Et les séraphins, ils sont tout proches du trône. Le Seigneur, il doit en entendre du bruit. La version Semeur dit « ils proclamaient ». Et puis un autre service, les versets 6 et 7, montrent qu'ils vont consumer le péché et permettre à Dieu de faire grâce. Ça, c'est les séraphins. Alors, on se rend compte qu'autour du trône, il y a une adoration constante. Maintenant, on va voir l'adoration de Jésus dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Car Dieu est adoré dans le ciel, mais la Bible précise que Jésus aussi reçoit l'adoration des anges. L'adoration de Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et il a fait la purification des péchés, et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, où est Jésus-Christ ? Il est assis à la droite de Dieu dans les lieux très hauts. S'il est présent, c'est par son esprit. Il est présent sur terre par son esprit. On dit que le Seigneur est au milieu de nous, c'est par son esprit. On peut dire que Jésus physiquement, la personne de Jésus, est à la droite de Dieu. Verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent. » C'est sur ce verset-là que nous porterons notre attention, le verset 6, « Que tous les anges de Dieu l'adorent. » Il s'agit de qui ici ? Il s'agit du Fils. Donc tous les anges de Dieu adorent Jésus. Entre parenthèses, le verset 5 qui fait référence à un engendrement, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », il ne signifie pas que Dieu a créé Jésus, mais ça fait référence au psaume 2 et au verset 7 qui est une référence à l'intronisation de David. Vous lirez ce psaume et vous verrez que Dieu dit à David, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », et évidemment que Dieu n'a pas engendré David aujourd'hui, il avait peut-être 30 ou 40 ans, mais c'était pour l'introduire dans son règne. Et donc, cette parole adressée à David a une portée messianique, ce n'était pas simplement David, mais c'était adressé au Messie, au Fils de Dieu. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », ça veut dire « je t'ai intronisé aujourd'hui, maintenant tu règnes dans la gloire ». Et c'est dans ce contexte-là, puisqu'il est dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, donc il règne, vous voyez. Donc, ça, c'était le verset 5. Et si on regarde le verset 6, c'est une citation du psaume 97 au verset 7, qui est légèrement différent dans la version des Hébreux, parce que quelquefois dans le Nouveau Testament, c'est la version des Septante qui est citée, une version grecque de l'Ancien Testament, tandis que la version hébraïque de l'Ancien Testament dit, le même verset, « Tous les dieux se prosternent devant lui ». Vous pourrez le lire au psaume 97 et vous verrez que cette parole ne s'adresse pas au Fils dans le psaume 97, mais elle s'adresse à Dieu le Père. Donc dans le psaume 97, il est dit « tous les dieux » avec un D minuscule, « tous les dieux » se prosternent devant lui et ça fait référence, ces dieux, ça fait référence aux anges. C'est pourquoi la traduction Septante a repris le mot « ange » et a traduit « tous les anges de Dieu l'adorent ». Et remarquez bien que dans le psaume, c'est bien Dieu qui est concerné par l'adoration, mais Hébreu, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur fait une application à Jésus le Fils de Dieu, qui reçoit la même adoration que Dieu. Les anges adorent Dieu le Père, les anges adorent Dieu le Fils. Ça se passe comme ça dans les lieux célestes. Et Jésus est l'égal de Dieu. Il n'y a aucune exception parmi les anges, bien sûr, excepté les anges déchus qui ont quitté le Seigneur et qui ont suivi Satan. Eux, ils n'adorent pas. Mais tous les anges, on dira les bons anges qui sont restés fidèles à Dieu, eux, ils adorent. Autrement dit, dans le ciel, le premier service des anges, c'est d'adorer Dieu. Et on remarquera, parce qu'on en parlera plus tard, mais sur la terre, le premier service des croyants, qu'est-ce que c'est ? C'est d'adorer Dieu. Que ça soit dans le ciel, que ça soit sur la terre, c'est la même chose, mais on voit que l'adoration commence au ciel. Et ensuite, c'est à nous de rendre notre service d'adoration à Dieu. On peut citer aussi le passage de l'adoration qui a eu lieu le jour de la naissance de Jésus, dans Luc chapitre 2, verset 13, toujours dans l'adoration de Jésus, vous voyez. On le cite souvent dans la période de Noël, en référence à la naissance de Jésus. Luc 2, 13, ce cœur céleste, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. » Encore une louange céleste qui s'est manifestée ici le jour de la naissance du Sauveur. Ça a été révélé à des anges, à des bergers qui paissaient dans les champs. Et un ange est apparu au berger pour dire, « Voici, je vous annonce une bonne nouvelle, le Sauveur va naître. » Et puis c'est à des anges très humbles qu'il y a une multitude d'êtres célestes, on n'a pas pu les dénombrer, un grand cœur céleste, un cœur d'ange qui est venu louer le Seigneur, ça devait être aussi quelque chose de grandiose. Vous aimeriez pas, vous, qu'on voit une apparition d'un cœur céleste d'ange là? Ça serait formidable. Hein. Et puis c'est apparu à des simples bergers, vous voyez. L'apparition n'a pas été pour des religieux, des sacrificateurs, des gens haut placés dans la religion, mais des simples bergers qui ne connaissaient pas grand-chose. Mais eux, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu des manifestations extraordinaires. Parce qu'ils avaient un cœur sincère, ils avaient un cœur humble. Ils ont été bouleversés, ces bergers, et Dieu leur a fait vraiment la grâce de voir un petit morceau de la louange céleste. Alors que Dieu nous fasse la même grâce, si on peut aussi, nous, avoir un petit aperçu de ce qui se passe là-haut. Un quatrième point, après l'adoration de Jésus, c'est l'adoration dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, verset 4, on se rend compte que l'Apocalypse fourmille d'adoration céleste. Apocalypse 4, verset 4. Donc, on va lire quelques passages dans l'Apocalypse. Le premier nous montre d'abord le trône de Dieu. Apocalypse 4, 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coupes de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors voilà comment ça se passe dans le ciel. On a ici une belle représentation. Les quatre êtres vivants, qui sont-ils? Déjà, on peut les distinguer des séraphins dont on a parlé tout à l'heure. Les séraphins, on a dit, c'est une classe à part, qui sont bien distingués. Et ici, nous avons les quatre êtres vivants qu'on assimile généralement à ces chérubins dont on a parlé tout à l'heure, les chérubins qui sont la deuxième catégorie d'anges tout de suite après les séraphins. Les chérubins, pourquoi? Parce qu'on retrouve les mêmes caractéristiques de cette vision d'Ézéchiel avec les faces. Vous savez que les chérubins, ils ont des faces différentes. Les quatre faces, une face, donc vous les retrouvez, le lion, le veau, l'homme et l'aigle, que vous retrouvez sur les quatre êtres vivants. C'est pourquoi beaucoup pensent que, en fait, ils les appellent êtres vivants, mais ça pourrait très bien être... Ça correspond bien à la description des chérubins qui est faite dans le livre d'Ézéchiel. Alors, ces chérubins, on les retrouve à différentes reprises. La première fois qu'on voit les chérubins, d'ailleurs, entre parenthèses, Satan, c'était un chérubin protecteur. Il est appelé comme ça. Les chérubins, donc, on les trouve la première fois dans le jardin d'Éden. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu a envoyé des chérubins pour empêcher l'accès d'Adam et Ève à l'arbre de la vie. Donc ils étaient là pour exercer un jugement de Dieu. Ensuite, on les voit par exemple sur le propitiatoire. Donc dans le temple, dans le tabernacle, il y avait cet objet qui était dans le lieu très saint, une sorte de coffre, et sur le coffre qui était plat, il y avait deux chérubins qui avaient les ailes déployées l'un vers l'autre et qui couvraient le propitiatoire, là où le sang était versé. Donc, les deux chérubins regardaient vers le sang versé et couvraient donc le propitiatoire de leurs ailes. Donc, les chérubins apparaissent sur l'arche de l'Alliance. Les chérubins apparaissent aussi sur les teintures, certaines teintures du tabernacle. Il est dit qu'il y avait des représentations de chérubins. Et puis, on le voit dans Ézéchiel, je l'ai dit tout à l'heure, dans Ézéchiel, les chérubins portent le trône de Dieu. Donc ils ont une fonction éminente, ils sont particuliers, ce sont des êtres spirituels haut placés, et la Bible dit qu'ils ne cessent d'adorer Dieu jour et nuit. Alors on se rend compte entre les séraphins, les chérubins, qu'il y a une louange permanente autour du trône de Dieu. Ensuite, vous avez les 24 vieillards dont il est question dans ce passage, qui se prosternent devant Dieu. On a dit se prosterner et adorer, c'est synonyme. Mais ils le font physiquement, c'est-à-dire qu'ils laissent de côté leur siège et ils se mettent à genoux, face contre terre, devant le Seigneur, en signe de révérence. Qui sont ces 24 vieillards? La plupart des interprètes considèrent que ça représente l'ensemble des croyants. 24, 12 et 12. 12, c'est-à-dire 12 représentants des tribus d'Israël pour représenter l'ancienne alliance, et puis 12 représentants des 12 apôtres pour représenter la nouvelle alliance. Donc les 24 vieillards peuvent représenter l'ensemble des croyants. Et la Bible dit à ce moment-là qu'ils jettent leur couronne devant le trône de Dieu. Alors pourquoi une couronne? Parce que nous sommes appelés à régner avec Christ. Et nous aurons des couronnes. La Bible dit que ceux qui auront persévéré, ils auront des récompenses célestes, des couronnes de gloire. Différentes sortes de couronnes sont mentionnées. Et là, il s'agit de couronnes d'or. Et ces couronnes, ce sont des récompenses. C'est-à-dire, ça ne concerne pas le salut. Les couronnes, ce sont des récompenses pour tous ceux qui auront accompli la volonté de Dieu, persévéré et fait des œuvres pour le Seigneur. La Bible dit que certains seront sauvés. mais comme au travers du feu, et ils perdront leur récompense. Ce qui signifie que tous n'auront pas de récompense dans les lieux célestes, mais seuls ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout. Alors certains, c'est vrai, ils seront sauvés quand même, parce que le salut, c'est par grâce, mais n'ayant pas répondu à l'appel de Dieu dans les différents... Seul Jésus est digne d'avoir la couronne du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et ils vont s'en dépouiller devant Dieu. La Bible dit qu'ils se prosternent la face contre terre pour montrer leur humilité et qui ressentent vraiment la grandeur et la puissance de Dieu. En fait, ça veut dire que Dieu seul est digne de recevoir l'adoration. Et on ne doit se prosterner devant personne. D'ailleurs, c'était déjà vrai dans l'Ancien Testament. C'est vrai encore dans le Nouveau. On ne se prosterne que devant Dieu et Jésus. On voit que des Hébreux ont été jetés dans le feu parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant une idole. Les trois Hébreux, les amis de Daniel, ça leur a coûté cher. Ils ont été protégés par Dieu, mais ils ont refusé de se prosterner devant quiconque autre que Dieu. Et pour nous, c'est pareil. À l'époque du Nouveau Testament, les croyants refusaient de se prosterner devant l'empereur, devant les divinités païennes, parce qu'ils considéraient qu'on adore que Dieu seul. Mais il fallait adorer l'empereur. Et si vous adoriez pas, si vous rendiez pas un culte à l'empereur, vous étiez persécuté. Alors ils ont payé aussi le prix de l'adoration exclusive réservée à Dieu. C'est un prix fort. Il ne faut pas oublier que l'Église est née dans le sang des martyrs. Et ceux qui nous ont précédés ont payé bien souvent de leur vie, les premiers chrétiens, ils ont payé leur foi de leur vie. Et si nous arrivons jusqu'au ciel, ce n'est pas par nos mérites, c'est une grâce de Dieu. C'est pour ça qu'ils jettent leur couronne aux pieds du Seigneur. Et on voit donc dans ce passage cette louange céleste. On peut lire un peu plus loin dans Apocalypse chapitre 5 et verset 8 qu'il y a de la musique et des chants dans le ciel. Apocalypse chapitre 5 verset 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » D'abord au verset 8, il est question d'instruments de musique. Il y a des harpes, donc il y a un aspect musical, ça veut dire que Dieu n'est pas contre la musique, mais que Dieu aime la musique. Et si vous lisez les psaumes, vous allez vous rendre compte d'une multitude d'instruments de musique qui servaient à louer le Seigneur. Donc on peut louer Dieu par la musique. Et Dieu aime qu'on le loue avec nos instruments. Verset 9, on le loue avec des cantiques. Alors est-ce que c'est des vieux cantiques? De quoi il est question là? Est-ce que c'est un vieux cantique des ailes de la foi du XVIIIe siècle qui est chanté là? Hein? Verset 9, il chantait un cantique comment ? Nouveau. Est-ce que vous êtes pour ou contre la nouveauté ? Quelquefois, quand on fait des nouveaux chants, on me dit, oh là là, on ne peut pas chanter, c'est des nouveaux chants. Mais si on n'apprend jamais des nouveaux chants, on ne pourra jamais les connaître. Eh ouais. Et vous voyez qu'au ciel, il y a de la nouveauté. Et Dieu n'est pas contre la nouveauté. Il aime les nouveautés. Alors nous sommes tous attachés à nos vieux cantiques, hein, et c'est normal. Et ils ont un texte, ils ont une contenance extraordinaire, et c'est bon de les chanter. Mais nous ne devons pas rester sur le passé, frères et sœurs. J'attire votre attention là-dessus, nous ne sommes pas des passéistes. Nous sommes en 2009, et nous allons de l'avant, et nous allons apprendre de nouveaux cantiques. Amen. Amen. Eh oui. C'est important parce que On ne doit pas, si vous voulez, entrer dans une routine, une liturgie, toujours les mêmes cantiques. On doit apprendre, renouveler notre hymnologie. Sans renier le passé, parce que tous ces cantiques, on les aime, on les apprécie, on ne les met pas de côté, mais nous allons de l'avant. Dieu aime la nouveauté, Dieu aime le changement, Dieu aime la spontanéité. Alors, si vous voulez faire plaisir à Dieu, on va apprendre des cantiques nouveaux. Amen. Ça vous dit? Alors, on se prépare. Hein. Vous avez entendu dimanche dernier? Voilà. Alors, vous avez un programme, là. Il y a tout le CD, tous ces chants nouveaux. On va les apprendre. On va les apprendre. Pas tous en même temps, rassurez-vous, progressivement. Et si vous ne savez pas comment faire, vous dites, oh là là, c'est que des nouveaux chants. Écoutez le CD à la maison. Et quand vous arrivez le dimanche, vous les connaîtrez tous. Hein? Si à la maison, déjà, vous écoutez beaucoup de chants de louanges, des chants actuels, des chants modernes, alors vous serez prêt pour ces nouveaux chants. Verset 11. Dans le ciel, il y a des temps d'adoration collective. Là, il est dit qu'il y a des myriades de myriades et des milliers de milliers d'êtres célestes qui louent le Seigneur. Ça en fait du monde. Alors, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas louer le Seigneur chacun leur tour. Sinon, ça prendrait des milliards d'années. Ils le font tous en même temps. Tous en même temps. C'est la louange collective. Alors, de l'extérieur, on dira, oh là là, quel brouhaha là-dedans. Des myriades de myriades et des milliers de milliers multipliés par de la louange. Et puis la Bible dit un peu plus loin que c'était d'une forte voix au verset 12. Ouh là là, quel bruit là-haut. Ça doit être impressionnant. Hein? Alors si vous cherchez le silence, c'est pas au ciel qu'il faut aller. Parce que là-haut, ça décoiffe. Il y a du bruit. Hein? Alors des fois on me dit, oh frère, il y avait du bruit ce matin au culte, c'était fort la musique. Hein? Alors préparez-vous pour le ciel, frères et sœurs. Parce que là-haut, ça va être un autre volume. Ça va être plus fort que l'A380 qui passe dans le local. Hein? Des myriades de myriades et des milliers de milliers d'une voix forte, faites le calcul au niveau décibels. Heureusement qu'on aura des oreilles qui ne seront pas humaines. Hein? Ce sera des oreilles transformées. Bon, ça vous fait pas trop peur? Alors on continue, Apocalypse chapitre 7, verset 9. Autre louange, ici nous trouvons une foule innombrable d'adorateurs. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Alors, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation et de toute tribu. De tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils... Oh, encore, ils criaient, c'est pas possible. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des 24 vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Ben là, on a une révélation de ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Ici, il est question de tous les rachetés qui sont réunis dans le ciel. Alors, il n'y a plus seulement les anges, et là, ça va faire du monde. Tous les rachetés après l'enlèvement de l'Église. Alors, vous avez remarqué, il y aura des gens de toutes les nations. Il y aura des Français, il y aura des Gabonais, il y aura des Brésiliens aussi, il y aura des Italiens, qui sait qu'il y aura encore, des Angolais, des Portugais, des Ivoiriens, des Congolais, des Tunisiens. Est-ce qu'il y aura des Juifs quand même un peu? Ah oui. Alors vous voyez, j'ai regardé dans le listing de l'Église pour voir un peu toutes les nationalités qu'on avait. C'est ce que j'ai cité là. Alors déjà, on a une petite représentation du ciel. Alors il y aura toutes les nations, il y aura même des Toulousains, et puis des Grenadins, on n'oublie pas Grenade aussi. Hein. Il y aura même des gens de Toulouse-Saint-Agne, des Minimes, et puis il y aura même des évangéliques qui ne sont pas des assemblées de Dieu. Est-ce qu'on leur dira bonjour là-haut? J'espère. Hein. Vous savez, les dénominations, ça c'est terrestre. Hein. Pour Dieu, il n'y a que les enfants de Dieu. Hein. Alors nous, on est des assemblées de Dieu. On a raison, c'est les meilleurs. Hein. Mais c'est pas mal chez les évangéliques aussi, chez les baptistes, les églises libres, enfin tous ceux qui croient vraiment dans toute la parole de Dieu. Quoi. Hein. Il y a des baptistes charismatiques, il y a toutes sortes d'évangéliques qui sont vraiment sincères, et ils sont vraiment convertis, ils appartiennent à Jésus, ils font partie du peuple de Dieu. Alors voilà un petit exemple de ce qui va se passer, toutes nations seront là. Alors quelle langue on va parler là-haut? Quelle langue on va parler? Moi je pense que ça sera le français. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la langue de l'amour. Et comme on va adorer le Seigneur, on va déclarer notre amour à Dieu, alors en français c'est quand même mieux qu'en allemand. Hein, en allemand, c'est guttural. Alors voilà, certainement qu'on parlera le français au ciel. Mais rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin d'interprétation. Vous comprendrez tout le monde. Alors tout le monde aura des robes blanches, on aura tous le même vêtement, il n'y aura pas de jaloux. Oh lui il a cette couleur, oh cette couleur. Tout le monde sera pareil, des robes blanches. Et on ne sera pas là en train de regarder comment il est habillé celui-ci au culte. Est-ce qu'il a bien mis sa cravate droite? Moi chaque fois je vérifie devant la glace. Et au ciel on sera délivré des cravates. Alléluia. Les robes blanches, ça signifie la justice et la pureté absolue. Au ciel, il n'y aura plus de place pour le péché. La robe blanche est l'image de la gloire de la résurrection, car nous n'aurons plus les vêtements sales. Vous avez une image de Josué le sacrificateur qui portait des vêtements sales, mais ils ont été ôtés et il a reçu un vêtement blanc à la place. Vous trouvez ça dans Zacharie. Donc, c'est une image de vêtements purs qui nous est réservée. Nous aurons des palmes à la main. C'est les symboles de la victoire et de la joie après les combats. Sur terre, nous sommes dans un combat, mais au ciel, c'est la victoire. Et là, nous aurons les palmes et nous chanterons les louanges de Dieu. Et encore une fois, il est dit qu'il criait d'une voix forte. Alors une personne qui crie, ça fait déjà du bruit, mais Jean précise, en plus il criait, mais en plus d'une voix forte. Alors ça veut dire que c'était très fort. Le tout multiplié par les myriades de myriades et puis tous les rachetés, alors c'est encore plus fort que tout à l'heure. Il n'y avait que les anges. Et maintenant, vous additionnez les rachetés et tous y criaient. Et puis, on voit l'attitude des anges qui se mettent à genoux, face contre terre, donc ils reconnaissent leur indignité, ils reconnaissent la grandeur de Dieu. Aucun ange, même le plus éminent, le plus grand ange de la création, ne mérite de recevoir l'adoration. C'est exclusivement réservé à Dieu et à l'agneau. On tourne Apocalypse chapitre 11, verset 16. L'adoration des 24 anciens. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu et sur leur trône tombèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui est assis, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Les trônes sont donc l'image de la royauté. On voit ces 24 vieillards qui quittent leur trône, qui se sentent indignes de régner avec Christ et qui se prosternent devant la majesté divine. Tout à l'heure, on les a vus qui jetaient leur couronne. Maintenant, on les voit qui quittent leur trône pour montrer que la royauté revient à Christ seul, face contre terre, prosterné en adoration devant Dieu. Apocalypse 14, verset 1, il est question ici de l'adoration de l'agneau de Dieu, toujours dans le ciel. « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient leur nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est, j'ai perdu ma ligne là. Excusez-moi, je ne vois plus du tout où je suis. Verset combien? 3? Bon, on va reprendre au verset 3. Ils chantaient un cantique nouveau et devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges et ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices de Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. L'adoration de l'agneau. Bon, alors, selon la plupart des commentateurs, les 144 000, ici, c'est un chiffre symbolique qui représente l'Église rachetée. Et la montagne de Sion, ça représente la Jérusalem céleste. Donc, ça se passe bien dans le ciel. De même qu'il y a le Sion terrestre, la montagne de Sion terrestre, Jérusalem terrestre, et Jérusalem avec le temple et l'adoration terrestre. Hein, le temple qui a été détruit, mais l'adoration qui continue. Donc de même, il y aura la Sion céleste. Et dans l'éternité, nous serons dans la Jérusalem céleste. Les chrétiens, dit ce texte, ils auront le nom de Jésus et de Dieu sur leur front, contrairement à ceux qui auront suivi la bête, qui auront le nombre 666 sur leur front. Donc, ils auront le sceau de Dieu, ces chrétiens, c'est-à-dire, ils auront été marqués par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il nous faut choisir notre camp, on ne peut pas être neutre. Il y a le royaume de Dieu d'un côté, il y a le royaume des ténèbres de l'autre. Il nous faut choisir pour Jésus. Si on décide d'être neutre, eh bien, on est forcément dans le camp de l'ennemi. On n'est pas encore dans le camp. Tant qu'on n'est pas dans le camp de Dieu, on est dans le camp de l'ennemi. Cette marque dont il est dit, ils auront le nom de Dieu et de Jésus sur leur front, c'est un sceau qui est cité dans Éphésiens 4:30, qui montre que nous sommes maintenant les propriétaires de Dieu. Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc c'est l'image, si vous voulez, du cachet qui était apposé sur les amphores à l'époque et qui montrait cet amphore appartient à tel propriétaire. Il y avait un signe. Cet amphore à tel propriétaire. Voilà. Eh bien nous, spirituellement, nous avons un cachet sur notre âme qui est le cachet de Dieu et de Jésus et qui, vous voyez, sera révélé là-haut. Alors on ne le voit pas, c'est invisible, là, c'est sur le front, mais on a le nom de Dieu et de Jésus. Jean parle à nouveau ici au chapitre 14 du bruit qu'il y aura dans le ciel, comme un bruit de grosses eaux. On peut penser aux chutes du Niagara. Ça fait un bruit extraordinaire, ça. Et puis, il est dit qu'il y avait comme un grand tonnerre. Ça m'est arrivé, lorsque j'étais en camping, de me retrouver dans la forêt, une nuit de tonnerre, avec les éclairs qui sont tombés à côté de la tente. Et je vous assure que ça fait du bruit à vous décoller les poumons. Il y aura comme un bruit de tonnerre là-haut, et ça sera puissant. Et puis, il est question encore de musique, on a vu. La musique continue avec les harpes. Il est encore question d'un cantique nouveau. Mais ce n'est pas le même cantique que tout à l'heure. C'est encore un nouveau. C'est-à-dire qu'au ciel, il y a constamment de la nouveauté. Tout le temps, des nouvelles compositions, parce que Dieu aime la créativité. Et puis, on voit les 144 000 qui louent Dieu par le chant. Alors, la musique et le chant ne sont que des moyens, car notre but, c'est de louer et d'adorer Dieu. Mais je peux l'adorer par le chant, et je peux le louer et l'adorer par la musique. Tout dépend de mon état d'esprit. Vous voyez, je peux donner un même instrument à un joueur de rock, lui, il va jouer sa musique. Je peux donner le même instrument à un adorateur, et lui, il va adorer Dieu avec cet instrument. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas l'instrument, c'est celui qui joue de l'instrument, l'attitude de l'adorateur. Parce qu'on peut louer Dieu avec tous les instruments, du moment qu'on est un adorateur, on le jouera d'une certaine manière. Et ça sera pour sa gloire. Et puis au verset 5, il est question de leur bouche. Vous voyez, dans leur bouche, ce n'est pas une source douce et amère, mais il est dit, dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. On ne peut pas louer Dieu d'un côté et puis être grossier de l'autre côté, être, avoir des paroles de critique, des mauvais propos sur l'un, sur l'autre. Eh bien, la louange, à ce moment-là, elle compte pas pour Dieu, parce qu'il faut que nos paroles soient en correspondance avec notre vie d'adorateur. Et les véritables adorateurs, vous les remarquerez par leurs propos, ils ne sont pas dans la critique, dans le jugement, dans la négative. Ils sont pas dans le mensonge, ils sont irréprochables dans leur vocabulaire. Et c'est ainsi que nous devons être pour plaire à Dieu. chapitre 15, verset 2. Ici, il est question du cantique de Moïse et de l'agneau. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et tous ceux qui avaient été vaincus par la bête et son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre. Ayant des harpes de Dieu, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait ? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestes. » Il est question d'une mer de verre qui représente la grâce, le refuge pour les vainqueurs qui se tiennent debout. Donc, à nouveau, il est question de harpe. Vous avez deux cantiques mentionnés, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, mais qui en fait ne font qu'un cantique qui représente, qui rappelle le triomphe de Dieu qui a triomphé des Égyptiens pour son peuple. Moïse, parce que Dieu a permis la délivrance du peuple hébreu lors du passage de la mer Rouge, vous savez, en ouvrant la mer en deux. Et puis Jésus, le cantique de l'agneau, parce que Jésus a permis la délivrance du péché en triomphant par la croix. Vous avez ces deux cantiques qui sont donc groupés, mais qui sont un symbole de victoire et de délivrance des ennemis du peuple de Dieu. Et puis on termine avec Apocalypse 19, verset 1, un dernier texte dans l'Apocalypse où vous voyez mentionné encore la louange. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône en disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux, et comme un bruit fort des coups de tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est rentré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Ici, il est question de voix forte dès le début, qui crie « Alléluia », ce qui signifie « louer l'Éternel ». Voilà comment ça se passe dans le ciel. Il y a des exclamations de joie. Et puis « Alléluia », c'est facile parce que c'est pareil dans toutes les langues. Hein. « Alléluia », que vous soyez hébreu, d'ailleurs c'est de l'hébreu, hein, ou français ou américain, vous direz tous « Alléluia ». Comme ça, on sera sûr de ne pas se tromper. « Alléluia » au ciel. Et puis, il y aura une louange collective à nouveau. On a vu les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tous ensemble adorent avec la foule. Il y aura aussi des « Amen ». Vous avez remarqué un peu plus loin, il est dit « Amen, Alléluia » au verset 4. Des « Amen », ça signifie littéralement « ferme ». Au début d'un discours, « Amen » signifie « sûrement, vraiment, en vérité ». À la fin d'une prière, « Amen » signifie « ainsi soit-il, que cela s'accomplisse ». Alors Jean fait référence aux « Alléluia », aux « Amen ».« Amen », c'est aussi un mot international, on n'aura pas trop de problèmes à se comprendre, vous voyez, entre « Alléluia », « Amen ». Et puis, il est question à nouveau du bruit, des grosses eaux, des coups de tonnerre. Il est question de la joie, de l'allégresse. Qu'est-ce que c'est que l'allégresse ? C'est une grande joie, une joie très vive, manifestée publiquement. Est-ce que nous sommes dans l'allégresse quand nous venons au culte pour adorer Dieu ? Hein ? Une joie manifestée publiquement. Et puis, il y aura de la louange. Et puis, il est question d'un grand festin, les noces de l'agneau. Un grand festin nous est préparé. Hein ? Qu'est-ce qu'il y aura dans ce festin ? Est-ce qu'il y aura du cassoulet toulousain, vous pensez ? Hein ? Ou est-ce qu'il y aura du foie gras du Gers ? Ou des terrines ? Je ne sais pas. Il y aura peut-être du couscous aussi. Il y en aura un peu pour tout le monde. Peut-être, c'est un peu comme quand on fait, nous, des festins, un petit peu toutes les Des fois, on fait toutes les nationalités qui font leur plat et puis on met tout sur la table. Voilà. En tout cas, ce jour-là, il n'y aura pas besoin de faire de régime. On sera tranquille, on aura un corps glorifié. Et là, on ne craindra pas de prendre des kilos. Alléluia. Vous voyez, ça sera formidable au ciel. Hein, voilà, on va prier. L'adoration, en conclusion, l'adoration existe même avant la création du monde. L'adoration existait déjà dans le ciel. Les anges de Dieu adorent en permanence. L'adoration a une grande importance dans le ciel. Dieu est environné de louanges, d'adoration. Au ciel, il y a de la musique. Au ciel, il y a des chants. Au ciel, il y a de la louange et il y a de l'adoration. Et la Bible montre qu'au ciel, il y a un certain volume sonore. Il y a du bruit. Il y a de la louange collective. Mais Dieu entend tout cela. Et lui, il se réjouit. Et lui, ça lui plaît de voir la louange qui vient d'un cœur sincère. Ce matin, c'était la louange et l'adoration céleste. Une prochaine fois, nous verrons la louange et l'adoration terrestre. Mais déjà, prions le Seigneur. Et je vous encourage à bien noter tous ces passages, à les méditer. Et comme ça, vous imprégner de ce que la louange que Dieu aime, de ce que Dieu attend dans la louange. Merci Seigneur encore pour ta parole qui nous montre cette louange, cette adoration céleste. Et nous considérons, Seigneur, ta grandeur, ta puissance et ta majesté. Et nous voyons dans ta parole que dans le ciel, tout est environné de louanges. Et c'est majestueux, c'est glorieux. Nous voulons te bénir encore pour ta parole qui est une source de réconfort, d'encouragement. Bénis mes frères, mes sœurs, et apprends-nous toujours à te louer, à t'adorer comme tu le désires. Merci pour ta grâce. Amen.